Bonjour, un patron totalement transparent qui dévoile spontanément le montant de son salaire, qui distribue des actions, des ordinateurs à ses salariés, une sorte de monsieur tout le monde jusqu'au bout des chaussettes. Telle est l'image qu'a donnée de lui-même Jean-Marie Messier, patron de Vivendi Universal, au moment de la récente sortie de son livre J6M.com. Alors une image si radieuse pose évidemment une question, est-ce qu'elle est vraie? C'est-à-dire est-ce qu'elle correspond à la réalité? Est-ce que cette image merveilleuse reflète bien le véritable Jean-Marie Messier? Ou est-ce qu'elle est simplement destinée à nous faire rêver et non point à nous informer? Alors pour tenter de répondre à ces graves questions avec nous, l'image, en vrai... C'est ce qu'on va tenter de faire avec le vrai Jean-Marie Messier, en chair et en os, sans cravate, sans veste. Il faut dire qu'on enregistre vendredi, donc c'est, ouais. Voilà, le Friday Wear. Et alors, pour enquêter sur votre image télévisée, Hélène Risser a épluché les pages de papier glacé des magazines, a regardé les émissions de télévision et est allée sur le net, puisque en immense patron de la communication que vous êtes, évidemment, vous communiquez partout, aussi bien à la télé que dans les journaux, que sur le net. Mais si vous voulez bien, on va commencer par une image qui n'est pas la vôtre, qui est aussi une image qu'on a beaucoup vue sur les écrans de télévision ces temps-ci, qui est l'image du président de la République, Jacques Chirac, aux prises avec les affaires. Alors vous vous souvenez, il y a 15 jours ici même, on s'interrogeait sur cette image présidentielle et sur les raisons pour lesquelles les journalistes accrédités à l'Élysée étaient si souvent si timorés à poser les questions qui fâchent au président de la République. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'ils se sont bien rattrapés depuis, dans les derniers jours, là, et ça a commencé le week-end dernier à La Haye.
Que savez-vous de cette affaire de financement des partis politiques ?
À cette question, Jacques Chirac n'avait jamais eu à répondre jusque-là. Ce matin, il était à La Haye, lors d'une visite sur le thème de l'Europe. Quand le président s'exprime, ce n'est pas pour commenter les affaires.
Je ne sais pas si vous avez remarqué...
Ik weet niet of u heeft opgemerkt...
...que j'étais hier en Italie, ce matin aux Pays-Bas... et que je pars pour l'Allemagne. Alors vous comprendrez que je concentre mon attention, et notamment mes réponses, à ces problèmes et pas à d'autres.
Bien, et quelques jours plus tard, à l'Élysée, quelques jours donc avant le sommet de Nice, à l'occasion d'une conférence de presse consacrée théoriquement à la préparation du sommet de Nice, autre question, un ton nettement plus au-dessus.
Tous les deux, vous êtes d'une certaine manière mis en cause dans les affaires actuelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui si vous pensez qu'un jour il faudra rembourser l'argent? Je parle des 2% qui ont été versés sur les marchés publics.
Alors je vous ai vu hausser le sourcil et effectivement, enfin de mémoire de téléspectateurs, c'est la première fois que je vois une question sur un ton tel aussi direct, on pourrait presque dire aussi brutal, posée au Premier ministre, au président de la République. J'ai envie de vous demander simplement votre réaction de téléspectateur là en la voyant.
C'est que je crois que ça fait partie de ce climat, de cette nécessité de transparence. Un homme politique comme un patron doit être prêt à répondre à toutes les questions qu'on lui pose.
D'accord. Donc vous trouvez ce ton. Alors j'ai omis de le préciser, mais la voix qu'on entendait était celle de Jean-Paul Lepers, qui est reporter à Canal+, dont vous êtes le patron finalement.
Et qui soit, c'est Pierre Lescure qui est le patron de Canal, et que Jean-Paul Lepers soit chez Canal, chez TF1, chez M6 ou sur La 5, ça ne change rien. Il fait son métier de journaliste et la base du métier de journaliste, c'est l'indépendance dans l'expression de n'importe quelle question. Je crois que les hommes politiques et la politique en France, ça a perdu pas mal de crédibilité ces dernières années parce qu'on a le sentiment que les politiques ne parlent pas des vraies questions qui intéressent les Français. Et que d'autre part, ils ne répondent pas toujours aux questions qui leur sont posées directement.
Alors, on va en avoir justement un échantillon avec la réponse, ou plutôt la non-réponse de Jacques Chirac à cette question. Alors, la question était diffusée sur TF1, la réponse l'était sur France 3.
Je vois tout l'intérêt que vous portez aux sujets qui sont en cause aujourd'hui. Enfin, vous aurez pu faire ainsi, vous aurez pu poser votre question, et cela vous aura, je l'imagine, soulagé.
Donc, vous dites illustration de ce que vous disiez.
Écoutez, en tout cas, je crois que puisque ces questions se rapportent aux affaires, je crois qu'il faut être lucide et pas être hypocrite. Oui, dans notre pays, il y a eu des moments où les partis politiques n'étaient pas financés, où ils se sont financés par des voies détournées, en liaison avec les entreprises. Ça a existé. Les règles du jeu ont changé aujourd'hui. Ma responsabilité...
C'est pas le cas actuel. Hein. C'est pas le cas de l'affaire du Conseil régional d'Île-de-France qui est l'occasion des reportages actuels et dont les faits sont intervenus après le vote des lois de financement des partis politiques.
En tout cas, moi, mon rôle, ça n'est certainement pas de donner un conseil aux hommes politiques sur l'attitude à tenir par rapport à ce genre de questions. Ma responsabilité de patron, par contre, depuis 1996, où j'ai en charge le groupe Vivendi, c'est de m'assurer qu'en matière de financement, qu'en matière de comportement éthique, les règles du jeu sont claires, qu'elles sont exprimées de manière brutale. Et à l'intérieur de notre groupe, la manière de les exprimer, c'est entre un acte illégal et la perte d'un marché. Le choix du groupe, c'est de perdre ce marché et de non seulement de s'assurer que les règles du jeu existent, mais de s'assurer qu'elles sont contrôlées et sanctionnées. Et c'est pour ça que j'ai recruté à mes côtés une ancienne magistrate qui a tout pouvoir d'investigation à l'intérieur du groupe.
Alors, vous êtes aujourd'hui patron de Vivendi, mais enfin, vous avez été haut fonctionnaire dans une vie antérieure. Vous avez fait l'ENA, vous avez été conseiller d'Edouard Balladur, ministre des Finances au moment des privatisations. Tout ce que vous voyez aujourd'hui vous conforte dans la justesse de la décision que vous avez prise de quitter la fonction publique et par exemple, de ne pas vous lancer dans une carrière politique ?
Oui, écoutez, je ne me suis jamais senti de vocation politique. J'ai passé 2 années formidables aux côtés d'un homme politique, Edouard Balladur. Enfin,
quand on fait des privatisations, on fait de la politique.
Des privatisations.
Ouais, c'est de la politique, ça.
Privatisation, c'est avant tout de l'économie. Ça veut dire rendre à l'économie des entreprises en constatant simplement que l'État est un mauvais actionnaire. Si vous voulez me faire dire que je suis libéral, oui. Si vous voulez me faire dire que je crois au marché, oui. Mais je ne crois pas au marché au sens de l'ultralibéralisme. Je crois au marché et à la nécessité de règles à l'intérieur de ce marché. Mais ma prise de position politique, elle ne va pas au-delà. Et en particulier une chose dont je suis très, très fier, à laquelle je suis très sensible, c'est que je ne suis pas quelqu'un à qui on peut coller une étiquette.
On va essayer quand même.
Toujours.
Plus tard dans cette émission, on va essayer, si vous voulez bien.
Vous aurez du mal.
On va essayer. On va revenir à présent à votre image, à vous, donc Jean-Marie Messier, dans les différents médias. Mais d'abord, peut-être, Hélène, un petit rappel du plan média qui a accompagné la sortie du livre.
Oui, alors effectivement, grâce au lancement de ce livre, vous êtes sorti des pages économiques des magazines. On vous a vu partout. Absolument partout. Alors, dans les hebdos, les quotidiens. Alors, on a choisi quelques exemples pour illustrer la diversité des supports. Alors, il y avait notamment un reportage sur vous dans le Figaro magazine qui vous a suivi pendant une journée de votre vie de patron. Vous aviez également votre portrait dans Libération. Et même plus surprenant encore, dans le magazine Elle. Vous êtes également passé à la télévision. Alors, dans le Gai Savoir.
Ça, c'est pivot.
Voilà. Mais aussi, justement, dans Bouillon de culture, où là vous êtes allé parler de votre livre comme un véritable écrivain. Donc ça change vraiment de la communication habituelle des patrons.
Mais alors, l'apparition médiatique qui a fait couler le plus d'encre, alors de manière peut-être inattendue, vous nous le direz, c'est les pages que Paris Match vous a consacrées, que Hélène va nous décrire maintenant.
Oui, alors voilà, donc, pour ceux qui l'ont raté, alors le propos du reportage de Paris Match.
Si c'est possible.
Mais quand même, on ne sait jamais. Alors, le propos donc, du reportage de Paris Match était de montrer que vous avez beau être un grand patron, vous êtes en fait un homme comme les autres. Alors, on vous voyait donc dans votre cuisine, en train de manger un sandwich sur le pouce. Alors, la légende précisait même que vous recevez comme monsieur tout le monde, pour ceux qui ne n'avait pas compris. Et on nous expliquait même d'ailleurs que sur votre frigo, réfrigérateur, s'alignaient donc des autocollants des Pokémon, comme chez des millions de familles françaises. Alors après le sandwich, vous êtes allé
avec
faire...
Avec 5 enfants entre 7 et 16 ans, c'est difficile de ne pas avoir des Pokémon chez soi.
Voilà, bah justement, on va en reparler. Parce que mes dernières choses dont on a beaucoup parlé au sujet de ce reportage, c'était donc de la sieste que vous faisiez sur votre lit, donc après votre sandwich, et où on voyait que justement votre chaussette qui était donc trouée.
On peut le dire.
Voilà, on peut le dire, on le voit d'ailleurs très bien sur cette photo. Et donc,
bon, alors évidemment, après vous êtes expliqué plusieurs fois, nombreuses fois d'ailleurs, sur ce trou à la chaussette, et on n'a retenu que ça. Vous avez dit j'ai été piégé par Match, je m'en étais pas aperçu, le photographe non plus, avez-vous dit. Et bon, donc il y a eu piège. Mais finalement, après coup, est-ce que vous n'êtes pas dit que ce piège avait été une excellente chose et que finalement ça avait été un extraordinaire coup de communication, prolongeant finalement jusqu'au bout la logique de « je suis monsieur tout le monde » quoi.
Écoutez, franchement, j'ai beaucoup de mal à raisonner au deuxième ou au troisième degré comme ça. La réalité, c'est que je me suis fait piéger. La réalité, c'est que depuis, je peux vous assurer que j'ai fait le tri dans mon tiroir de chaussettes. Je peux vous assurer que je suis comme... vraiment comme des millions d'entre nous. Hein. Ouais, je prends la première paire le matin Est-ce que c'est un coup génial de communication? Est-ce qu'il fallait le faire pour ça? Moi, je dirais oui, tout.
Vous avez
tout
quand même une petite idée, vous avez quand même une petite idée sur le fait que ça vous a quand même pas mal profité. Je crois que même les publicitaires ont trouvé que c'était fantastique.
Au fond de moi, je pense, c'est que il y a d'autres manières de montrer qu'on est quelqu'un comme tout le monde, pour reprendre votre expression, que de montrer une chaussette trouée. Et j'ai un rêve qui serait plutôt de montrer des traits de caractère qui dépassent un tout petit peu match. Et je trouve que ramener ma personnalité à la paire de chaussettes trouées, c'est un tout petit peu réducteur.
Ouais. Alors, les traits de caractère, on va en parler, hein, mais je crois que vous les montrez aussi largement dans vos apparitions.
Sur le fond, ouais. Le papier de match, je crois que la réponse principale, parce qu'on m'a beaucoup posé cette question, mais pourquoi est-ce que vous avez éprouvé le besoin de faire ce papier dans Match? La vraie raison, elle est toute simple. À partir du moment où vous écrivez un bouquin, quand j'ai écrit ce bouquin, j'avais envie qu'il se vende. Hein,
ça paraît clair.
Et faire 4 pages, un reportage de 6 pages dans Paris Match, ça aide à vendre le bouquin, à expliquer ce qu'il y a dedans. Et quand on fait quelque chose, autant le faire jusqu'au bout.
Oui. Alors, le problème auquel nous, on s'est intéressé, ce n'est pas ces 4 pages, c'est leur contenu. Et vous savez qu'ici, alors, donc, on enquête sur les coulisses des images. Et donc, évidemment, on a enquêté sur les coulisses de ces images-là avec des résultats surprenants.
Oui, alors justement, quand on voit cette photo, on imagine que vous venez de finir de beurrer votre sandwich et que le photographe de Paris Match arrive et vous saisit en fait sur le vif au moment où vous êtes en train de manger. Alors évidemment, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça.
Non.
Parce que, en fait, après enquête, on a appris que votre frigo était vide.
Même pu apprendre que ces photos ont été faites en milieu d'après-midi, que j'avais pas eu le temps de déjeuner ce jour-là, et donc que j'étais content que le photographe soit venu avec un sandwich.
Ah, il est venu avec un sandwich.
Voilà, le photographe en fait est venu avec un sandwich qu'il avait prévu pour lui, et comme votre frigo était vide, eh bien en fait, il vous a donné son sandwich pour la photo.
4h30 l'après-midi. Voilà. J'avais faim.
D'accord. Alors vous parlez beaucoup de vos enfants, mais vous ne les montrez pas. Hein, on les a jamais vus dans les photos des magazines.
Il y a jamais vous ne les verrez jamais.
Voilà. Et alors vous. Quand on vous pose la question, évidemment, vous expliquez pourquoi. On n'est pas très originaux ici. Hein, donc on vous a posé plusieurs fois la question, vous avez répondu. Mais nous, on s'est intéressé aux mots avec lesquels vous répondez à ce type de questions et à d'autres. Et alors, on est allé faire décrypter votre vocabulaire, le vocabulaire assez particulier de Jean-Marie Messier, à des lycéens de seconde du lycée Henri Poincaré à Nancy. C'est un reportage de Raphaël Bott.
Et donc, moi, j'aimerais connaître le secret de la réussite sentimentale de Jean-Marie Messier. Parce que c'est vrai qu'on vous voit partout, avec votre femme, tous ses enfants.
On ne la voit pas, la femme.
Ah non, c'est les enfants qu'on voit, non ?
On ne la voit ni elle, ni les enfants, parce que ça, c'est un sanctuaire.
Il veut vraiment les préserver et mettre sa famille à l'écart, quoi.
Où est-ce que tu vois qu'il veut les préserver ?
Bah, quand il insiste sur le mot sanctuaire, quoi. Il veut pas les mêler à sa vie médiatique, quoi.
Il a l'air de les aimer et de le montrer, mais il veut quand même pas qu'on les voie. Il veut bien en parler, mais il veut pas qu'on les voie.
On vous voit avec des chaussettes troué. C'est exprès aussi.
Il y a une chose que vous ne voyez pas et que vous ne verrez jamais, parce que c'est la limite, c'est la famille. Pour moi, c'est un sanctuaire.
Je vois pas trop le rapport entre le trou dans les chaussettes, puis d'un coup l'histoire de la famille. C'est vrai, c'est pas trop cohérent.
Alors lui qui prétend ne pas vouloir en parler, pourquoi il amène le sujet?
C'est la famille. Pour moi, c'est un sanctuaire. On ne la voit ni elle, ni les enfants, parce que ça, c'est un sanctuaire.
Oui, il se répète. Il dit toujours, la famille, ma famille, c'est un sanctuaire.
Le fait qu'il se répète,
ça peut faire un doute sur ses véritables objectifs.
Match m'a piégé, bravo. Je peux vous dire une chose, depuis, avec mes enfants, j'ai trié dans le tiroir.
S'il parle de ses enfants, il se dit, il y a peut-être un enjeu si je parle de mes enfants. Après, je vais avoir une bonne image du bon père de famille qui s'occupe bien de ses enfants, qu'en même temps un bon PDG, un bon père de famille. Et ça pourrait me servir.
Est-ce qu'on peut regarder les chaussettes là?
Je vous promets, on pourra faire un gros plan à la fin de l'émission si vous voulez.
On pourra voir, parce qu'il n'y a pas de
trou. Je vous promets, j'ai fait vachement attention avant de venir.
Et quant aux chaussettes, je vais le dire très simplement, je suis comme des millions d'hommes. Je me lève parfois un peu dans le brouillard le matin et je pique la première paire de chaussettes qui est disponible dans le tiroir. Donc c'est une histoire de mec et rien de plus que ça.
Et le vocabulaire qu'il utilise?
C'est assez cool. Il utilise vachement, donc c'est quand même pour montrer qu'il peut être à l'aise devant des personnes, montrer qu'il peut être comme ses enfants, employer le même terme que ses enfants, et donc aussi des personnes de tout le monde, quoi, de tous les jours.
Je vous promets, j'ai fait vachement attention avant de venir.
Ben, c'est sûr qu'ils ne vont pas s'amuser à employer un vocabulaire tout le temps soutenu, parce que sinon les gens, ils apprennent.
Ça se doit d'être exemplaire aussi, un patron.
Non, parce que personne dans la vie n'est exemplaire. On fait des erreurs, on fait des conneries absolument tous les jours. J'ai une chance, j'ai un bol d'enfer, comme on dit. J'ai rencontré un jour dans ma vie une femme qui est drôle, qui se prend pas au sérieux, qui est mon meilleur vaccin anti-grosse tête au fur et à mesure que je traverse la vie.
Est-ce qu'il y a un terme en particulier dont on n'est pas forcément habitué dans la bouche d'un grand patron?
Oui, par exemple, on dit, il dit « j'ai eu de la chance » et puis tout de suite il se reprend et il dit « j'ai eu un bol pas croyable ».
On fait des erreurs, on fait des conneries absolument tous les jours.
S'il était vraiment comme tout le monde, il aurait dit par exemple déjà « conneries » et ensuite il se serait pris, il aurait dit « des erreurs ». Mais il n'aurait pas dit « des erreurs » et « conneries » après. C'est comme s'il voulait placer un mot familier dans ta phrase.
Elle a raison en disant que si c'était quelqu'un qui parlait comme tout le monde, le réflexe, ça serait de parler comme on a l'habitude de parler, donc en disant conneries. Et on se dit, mince, faut pas que je parle comme ça à la télé, alors on se reprend et tout. Et là, il a le réflexe de parler comme il a l'habitude de parler, c'est-à-dire en soutenu. Et il se dit, ah non, mon livre, et là, il dit conneries.
Peut-être aussi qu'on lui a dit avant l'émission, par exemple, ou peut-être qu'il s'est dit, il faudrait que j'essaye de parler comme tout le monde, comme ça, ils vont voir que je suis un homme banal et qu'ils peuvent me faire confiance et tout ça.
Je pense qu'il est sincère, il n'essaye pas de se donner une image, il utilise le vocabulaire qu'il veut. Bon, c'est vrai que des fois c'est un peu trop familier, mais il ne va pas utiliser ce langage-là dans les réunions, mais comme nous on n'utilise pas un certain langage quand on vient en cours, c'est pareil.
Alors le parler jeune, c'était un long apprentissage, comment vous avez fait ?
C'est pas le parler jeune, c'est que je parle comme ça. Et ce qui me frappe dans les réactions de ces élèves de seconde, c'est que finalement, ils se posent beaucoup plus de questions sur comment est-ce que je dois parler, quels sont les mots qu'il faut que je dise, quels sont les mots qu'il ne faut pas que je dise. Ouais. Est-ce qu'on lui a donné tel ou tel conseil avant d'entrer sur l'émission? Il faut dire des mots, entre guillemets, de la vie de tous les jours, des mots cool ou pas? Je crois que c'est beaucoup plus simple que ça, c'est qu'il faut parler comme on est, comme on le sent. Et je suis pas, on a parlé tout à l'heure des hommes politiques, je suis pas un homme politique. J'ai pas besoin de me faire élire.
Mais vous êtes un homme public.
Je suis un homme public, donc je dois accepter, c'est pas forcément drôle, parce que ce soir on parle beaucoup d'images, avec le sentiment, il s'affiche à pleine page dans les magazines, c'est vachement bien, il fait sa pub. On en prend plein la figure aussi, quand on est exposé sur le plan médiatique.
Vous devriez dire plein la figure, plein la gueule.
Oui, je peux dire plein la gueule. Parce que si y a des jours où, effectivement, quand vous voyez certains articles, vous les prenez effectivement de plein fouet.
Non, mais ça c'est certain. Mais mais est-ce que vous pouvez vraiment nous dire que vous êtes totalement indifférent à l'image que vous donnez? Parce que vous nous dites, bon, match, c'est pas moi qui voulais, c'est lui le sandwich, tout ça. Vous dites, le vocabulaire, je le choisis pas, j'y fais pas attention, je prononce les mots qui me viennent. Est-ce que vraiment, quand on est un homme public et qu'on incarne son entreprise, puisque finalement, à travers votre image, c'est Vivendi que les gens perçoivent, est-ce qu'on peut se dire, je suis totalement indifférent à l'image que je vais donner?
Il y a une chose qu'on se dit, c'est que si tout va bien, j'ai la durée devant moi. Donc il y a une règle qui doit être clé, qui est la seule règle de conduite, c'est d'être sincère. Parce que si vous n'êtes pas sincère, vous commencez à vous faire des nœuds, et ça se voit très vite. J'espère bien présider le groupe Vivendi Universal pour 15 ou 20 ans. Donc dans 5 ans... J'ai pas envie que vous refassiez cette émission. D'accord. En disant, vous voyez, là on a la démonstration qu'il n'a pas été sincère.
Quand vous étiez au cabinet d'Edouard Balladur, vous trouviez aussi que les privatisations c'était cool et c'était fun, vous trouviez que vous aviez un bol d'enfer, vous parliez comme ça, Edouard Balladur?
Edouard Balladur, je m'adressais à lui en disant, monsieur le ministre d'État, comme il se fallait, bien entendu.
C'est-à-dire que vous faisiez violence, vous vous contraigniez à cette époque-là?
Alors, sans aucun doute, pour dire monsieur le ministre d'État, oui.
Mais cela dit, vous dites que c'est très dur, que vous vous en prenez plein la figure, voilà, je veux dire comme ça. Mais bon, cela dit, vous vous exposez beaucoup, beaucoup plus que les autres patrons. Donc c'est en même temps vous qui vous mettez dans cette posture de vous en prendre justement plein la figure.
Oui, mais derrière, il y a deux raisons. Et les deux vont dans le même sens. La première raison, c'est qu'on m'a confié un groupe, la Compagnie Générale des Eaux, qui était un conglomérat avec beaucoup de métiers, avec une image qui était très dégradée par les affaires auxquelles vous faisiez allusion tout à l'heure, que ce groupe a énormément changé, à la fois dans sa manière de se comporter, dans ses métiers, et que pour moi, il était extrêmement important d'expliquer, de faire comprendre.
Et d'incarner.
Dans cette condition-là, sur une période de changement aussi brutale, en aussi peu de temps, c'est vrai qu'il y a un élément d'incarnation personnelle. Et puis la deuxième chose, c'est que je crois profondément qu'un patron doit s'expliquer et doit accepter de s'expliquer. Il doit rendre des comptes. La seule raison d'écrire un bouquin, c'est de faire passer ce message.
Et la seule raison de manger un sandwich de Jean-Marc, c'est pour faire vendre le livre.
Rendre des comptes, en tout cas, ça me paraît absolument évident qu'il faut accepter de rendre des comptes, pas seulement à ses actionnaires en Assemblée Générale, qu'il faut aussi accepter de rendre des comptes au public et qu'il faut accepter ce type de confrontation.
D'accord. Alors, le très grand coup, hein, on peut le dire, de communication par lequel vous avez vraiment frappé les imaginations, c'est dans votre livre, en dévoilant le montant de votre salaire. Et évidemment, dans toutes les émissions dans lesquelles vous êtes passé ensuite, c'est là-dessus qu'on vous a interrogé. Là encore, un montage.
Vous avez eu le courage, ou l'habileté, je ne sais pas, peut-être les deux, d'ailleurs, de donner votre salaire dans cet ouvrage, qui est de... Alors, après impôt...
Après impôt, c'est 7 millions, un peu moins de 7 millions de francs par an.
Oui.
Et je sais très bien que c'est un chiffre qui peut choquer, mais... En même temps, si j'ai écrit ce livre, c'est parce que je suis persuadé que plus les entreprises sont grosses, plus elles agissent, plus leurs décisions pèsent sur la vie quotidienne et plus on doit rendre des comptes.
Vous dites, vous, j'ai gagné l'an dernier 22 millions.
J'ai gagné 20 millions en brut et un peu moins de 7 millions de francs en net.
JCM.com, c'est un livre en fait où c'est un patron qui se déshabille et qui raconte tout, qui donne son salaire, hein, c'est rare.
Oui, pourquoi
le refaire,
pas le dire.
On peut le refaire. Allez, on le refait.
J'ai gagné l'an dernier 20 millions de francs bruts, 7 millions de francs nets.
Bon alors, très grand moment de télévision, hein, très inhabituel en France, on n'est pas du tout habitué à ça. Bravo. Alors le problème, c'est que là encore, on a contre-enquêté. Hélène dans sa besace, n'a pas seulement un sandwich, elle a aussi quelques autres petites bricoles.
Oui, c'est vrai que quand on vous voit parler de votre salaire, on pense spontanément que c'est ce que vous gagnez. Mais alors, en interrogeant différents analystes, différents spécialistes, en fait, j'ai appris qu'il y avait d'autres éléments de votre rémunération. Alors, on m'a parlé des jetons de présence. Donc, les jetons de présence, j'explique, donc c'est donc les patrons siègent au conseil d'administration d'autres grands groupes. Et donc, vous siégez dans plusieurs conseils d'administration, on m'a dit une dizaine. Alors, il y a Daimler Chrysler, Saint-Gobain, Alcatel, LVMH, la BNP. Alors ça veut dire environ 4 réunions par an à peu près et une rémunération quand même assez conséquente puisque c'est de l'ordre de 300 à 600 000 francs par an. Alors, si on multiplie par 10, ça fait quand même de 3 à 6 millions par an. Et donc ça viendrait se rajouter à ce dont vous parliez justement dans les émissions de télé.
Alors tant qu'à le dire, pourquoi pas tout dire ?
Oui, mais on dit tout. Je ne suis pas dans 10 conseils d'administration, je suis dans 5 conseils d'administration. La rémunération moyenne d'un jeton d'un administrateur, ce n'est pas 300 à 600 000 francs, c'est en France de l'ordre de 120 à 150 000 francs. Et troisième élément d'information, dans les 20 millions de francs bruts, que j'ai gagné l'an dernier, il y a bien mes jetons de présence de mes différents conseils d'administration.
Tous vos jetons de présence, parce que alors, après avoir interviewé différents analystes qui justement vous connaissent bien, ils nous ont expliqué qu'il y avait justement ces éléments de rémunération qui venaient s'ajouter. Ils sont dans votre rémunération.
Okay. Eh bien, si vous allez voir ma feuille d'impôt, vous retrouverez le chiffre que j'ai rendu public, parce que je crois que quand on fait quelque chose, je le disais tout à l'heure pour le bouquin, on le fait jusqu'au bout. Il n'y a pas de gloriole à tirer de rendre public son salaire. C'est même une chose sur laquelle j'ai beaucoup hésité. Parce que d'abord, le chiffre peut choquer beaucoup de gens, qu'ensuite, on n'y est pas habitué en France, que ça pouvait déclencher, entre guillemets, un début de polémique. Et en même temps, si on n'accepte pas d'essayer de faire de la pédagogie, c'est-à-dire de dire, OK, voilà combien je gagne, mais c'est le prix de la responsabilité que j'exerce et j'essaye de vous expliquer la responsabilité que j'exerce. On ne franchira jamais ce mur et cette tradition bien française qui est de ne jamais vouloir parler d'argent. Donc autant le faire, mais je l'ai fait complètement et je vous ai même répondu sur les conseils et les
jetons de présence. La rectification est faite. Alors, évidemment, quand un patron comme vous prend la parole dans l'espace public, comme ça intervient dans le débat public, la tentation en France est d'essayer de l'étiqueter. On en parlait au début de l'émission, de le classer à droite ou à gauche. Les Français adorent ça, classer à droite ou à gauche. Et il arrive que vous donniez quand même quelques éléments qui permettent de vous étiqueter. Alors, vous nous disiez au début de cette émission, je suis un libéral. Et alors, pour nous, c'était presque un scoop, franchement, parce que ce que vous aviez dit dans les émissions précédentes n'allait pas véritablement dans cette direction-là.
Je crois au marché, je dirige une entreprise qui est destinée à faire du profit. Cette entreprise, je la développe au niveau mondial. Donc, je suis un libéral. D'accord. Et ça, vous y mettez plutôt une étiquette de droite.
Oui, hein, mais alors la télé, jusqu'à présent, si vous... ouais, la télé nous l'avait caché. Et vous nous l'aviez caché parce que ça allait plus...
C'est difficile.
Ça allait plutôt dans le sens... Alors, regardez quand même.
Je suis convaincu que l'épargne salariale, c'est vraiment une évolution majeure du mode de fonctionnement des entreprises. C'est le capitalisme équitable que l'on recherche.
Vous avez une formule tout d'un coup très surprenante. L'Internet est de gauche. Ah.
Parce que je trouve que l'Internet, c'est l'ascenseur social par excellence.
Il n'y a pas que l'Internet qui est de gauche, il y a Jean-Marie Messier aussi.
Oh, j'ai lu que j'étais plus à gauche qu'à la main. Donc
c'est pas très difficile.
Finalement, les bonnes questions, celles qui concernent la vie quotidienne des citoyens, pas seulement des consommateurs, des citoyens, elles sont posées par José Bové, par les organisations antimondialistes, par les ONG, par les mouvements écologistes. Quand vous regardez un pouvoir, il doit y avoir un contre-pouvoir. Aujourd'hui, l'apparition d'une voix comme celle de José Bové, c'est un contre-pouvoir utile.
Voilà, et puis...
Et alors, pour revenir à la fameuse photo de match, ouais, le livre que vous lisez pendant votre sieste de milieu d'après-midi chez vous, c'est
La Bourse ou la vie
de la Barre des Maristes, ouais, qui n'est pas précisément un livre en faveur de la mondialisation. Alors, José Bové, il pose des bonnes questions, dites-vous.
Est-ce qu'on sera capable de sortir un jour dans ce pays du débat manichéen « je vois quelqu'un, je lui colle une étiquette » et du débat manichéen « gauche-droite » ? Ce débat ne veut rien dire. Je suis à la tête d'un groupe qui se développe au niveau mondial. Je suis donc un partisan de la, entre guillemets, mondialisation. Mais en même temps, quand je regarde sur le plan de l'environnement, quand je regarde la vie de mes salariés, j'ai envie de me dire qu'est-ce que je peux faire pour que cette mondialisation soit plus humaine. Alors, cessons de poser des questions de principe tranchées pour classer les gens et regardons plutôt, à partir d'une situation donnée, ce qu'on peut faire pour aller vers ce dont on a tous envie, c'est-à-dire un monde plus ouvert, plus tolérant.
Mais admettez quand même que ça prête à confusion. Je veux dire, la façon répétée dont vous rendez hommage à José Bové et aux questions qu'il pose...
Parce qu'il est nécessaire. Quelles sont les questions que pose José Bové ? La malbouffe ? Comment est-ce que nos enfants vont se nourrir ? La défense de l'environnement, hein, et la qualité de l'environnement pour nos enfants. Et d'autre part, la mondialisation... Ouais. Et je dirais son impact culturel sur la vie de chacun de nous.
Là, il ne pose pas seulement des questions, il apporte des réponses, José Bové.
C'est-à-dire, oui, il apporte des réponses avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord.
Ah, voilà.
C'est-à-dire que qu'il y ait...
On n'est pas arrivé.
qu'il y ait nécessité d'avoir ces contre-pouvoirs, oui. Mais pour moi, un contre-pouvoir, ça n'est pas uniquement être contre tous les pouvoirs. Limiter la contestation ou la recherche d'un contre-pouvoir à la mondialisation à casser du McDo, ce n'est pas la bonne réponse.
D'accord.
Par contre, c'est la bonne question.
Alors, vous parlez dans l'extrait qu'on vient d'entendre, l'épargne salariale, hein, que vous avez promu dans le groupe Vivendi, vous en faites l'apôtre. Évidemment, ça va vous faire étiqueter à gauche. Mais alors.
Vous avez du mal, hein, vous passez sans cesse à gauche, à droite, à gauche, à droite.
On essaye. Alors, simplement en matière d'épargne salariale. Alors, il se trouve que nous aussi, on a un site Internet et on fait des enquêtes sur ce site Internet. Et dans le cadre de ces enquêtes, on est allé voir vos propres sites Internet et on y a retrouvé la trace de deux communiqués de Vivendi. Donc, le 10 mai, Vivendi a annoncé un plan de stock option pour les 50 premiers dirigeants du groupe, pouvant représenter jusqu'à 1% du capital de Vivendi. Ça, c'est les 50 premiers dirigeants. Et le 26 novembre, il y a quelques jours, vous avez distribué 10 actions de Vivendi à chacun de vos 250 000 salariés. Et ça fait 0,4% du capital de Vivendi. Donc, rapide calcul, un dirigeant a reçu en moyenne 12 500 fois plus de stock option qu'un salarié moyen. Qu'est-ce qu'il penserait de ça, José Bové ?
Je ne sais pas ce que José Bové pense, mais par contre, je pense que vous avez oublié un détail. C'est que ces dirigeants ne pourront exercer ces stock options que si le cours de Vivendi a surperformé ses concurrents. C'est-à-dire que je considère qu'un dirigeant, il n'est pas payé pour faire aussi bien que ses concurrents, il est payé pour faire mieux que ses concurrents vis-à-vis de ses actionnaires. Autrement dit, si nous sommes incapables de faire mieux que nos concurrents, ces stock options n'existent pas, on ne pourra pas les exercer.
Et dans
si nous faisons beaucoup mieux pour nos actionnaires, oui, c'est vrai, les dirigeants qui bénéficient de ces stock options de par la volonté des actionnaires d'ailleurs, pourront en bénéficier.
Un dirigeant apporte 12 500 fois plus de choses au groupe qu'un salarié de base.
Bien entendu, on ne peut pas raisonner comme ça. Et comment est-ce que vous calculez le rapport entre ce que gagne Anelka ou Claudia Schiffer et ce que je gagne ou ce que gagne un salarié ou ce que vous gagnez?
Oui, mais enfin,
quel est le prix? Comment est-ce que vous fixez ce prix? C'est quoi le prix d'Anelka?
Oui, mais enfin, je connais pas les chiffres.
C'est quoi le prix de
Mekinen? Mais le multiple par 12 500 est quand même particulièrement frappant.
Encore une fois, vous mettez en avant ce multiple alors que les choses sont extrêmement différentes derrière.
Alors, vous répondez avec beaucoup de talent aux questions qu'on essaye de vous poser. C'est un peu dans le droit fil du parler vrai, de la volonté de rendre des comptes que vous dites devoir être celle des patrons aujourd'hui. Et ça, évidemment, ça s'oppose un peu à ce qu'on appelle habituellement la langue de bois des politiques. On en avait un exemple au début de l'émission. La langue de bois, c'est par exemple ne pas vouloir dire du mal d'un allié ou d'un camarade de parti, même si en coulisses, on essaye de lui savonner la planche. Alors, on a un cas d'école quand même qui est un peu étrange, ça concerne vos relations avec Pierre Lescure. À la lecture de la presse toutes ces dernières semaines, on a pu lire sur votre amitié avec Pierre Lescure, patron de Canal+, les rumeurs les plus alarmantes, Hélène.
Oui, voilà. Donc, d'après les échos qu'on a pu avoir dans la presse, hein, donc d'abord dans le Canard enchaîné, alors là, on nous parle d'un Lescure plus près de la porte que de l'augmentation.
Là, vous êtes sûr de la fiabilité de la source.
Le Monde, quand même, il y en a eu d'autres, affirme que vous avez voulu débarquer Pierre Lescure. L'information est commentée aussi dans le Nouvel Observateur, qui a même la raison de ce limogeage, c'était l'insubordination. Quant au point, il va encore plus loin, puisque lui, il s'est procuré des informations sur une shortlist de successeurs potentiels qui auraient été dressés. Alors, Jean-Marie Messier, Pierre Lescure a fait beaucoup de bruit, on en a même parlé sur Canal+, dans les guignols de l'info.
Depuis une semaine dans la presse, la rumeur enfle, donc je vous pose la question très directement, avez-vous l'intention de débarquer Pierre Lescure de la présidence de sa chaîne ? Ne soyons pas simplistes, Pierre est un homme de qualité, oh mon Dieu. C'est un homme que j'estime, qui en outre a toute ma confiance. Mais laissez-lui une chance, enfin. Pierre peut tout faire, c'est un génie. Moi, je le vois bien, cosmonaute. Quoi ? Imaginez ça, Pierre Lescure, le premier homme à marcher sur Pluton. Quelle carrière ! Je suis prêt à financer le voyage. C'est vachement loin. Un beau voyage, 70 ans aller, 70 ans retour. Mais dans 140 ans, quel triomphe quand Pierre reviendra sur Vivendi. On dit sur Terre. Oui, pardon, j'anticipe.
Alors, vous êtes rendu au siège de Canal+, pour rencontrer l'ensemble du personnel. Oui. C'était il y a quelques jours. La question vous a été posée et le message diffusé était simple.
Monseigneur, c'est à vous.
Pierre, ça, Monseigneur, tu me le fais une fois. S'il y a un seigneur ici, t'en es un et t'en es un vrai, Pierre. Pierre a des idées. Il les défend. Il les défend souvent avec vigueur. On en parle. On en parle. On se met d'accord. Et après, il n'y a pas d'état d'âme. Alors, soyons clairs. Pierre, tu es le meilleur patron pour Canal, le meilleur patron pour l'avenir. Canal, c'est une tribu. Je respecte la tribu. La tribu Canal, elle change. Elle a changé depuis 15 ans, elle va continuer à changer, et elle a la chance d'avoir un chef qui est là depuis le premier jour, qui a suivi tous ces changements et qui va continuer à suivre l'ensemble de ces changements. Et Pierre, pour moi, c'est le chef de tribu. Pierre est le meilleur patron pour Canal, point barre. Alors maintenant, vous pouvez continuer à entendre, vous pouvez dire... Ok, il nous dit ça, qu'est-ce qui va se passer demain? Si vous voulez savoir, est-ce que Pierre sera encore là dans un an? On se donne rendez-vous dans le même studio dans un an. Vous serez tous là, hein? Et vous souviendrez tous qu'on l'a dit aujourd'hui, d'accord,
hein? Soyez là, les gars.
Il est moyennement rassuré, quand même.
Oui.
Et je crois que le sourire que vous voyez à l'image qui est derrière nous me semble indiquer le contraire.
Mais alors, pourquoi pas parler franchement? Pourquoi pas dire, ben oui par rapport on s'est affronté durement pour le contrôle.
Mais on l'a dit, en réponse à une question de Jean-Paul
Lepers. Et j'ai failli le lourder, et il a failli démissionner.
Non, là non. Par contre, oui, on a eu des discussions dures, précises, sur la manière d'organiser le fonctionnement de Canal+, à l'intérieur de Vivendi Universal. Mais soyons clairs, si je vous dis dans une émission de télé, comme aujourd'hui, Pierre Lescure, je l'aime, il va rester. Vous ne me croyez pas, vous n'êtes pas obligé de, vous n'êtes pas obligé de me croire.
C'est notre métier. Vous savez, on est habitué aux hommes politiques.
Et ceux qui nous voient, pas forcément. La raison pour laquelle j'ai souhaité, avec Pierre, avoir cette explication de manière directe, sincère, avec les salariés de Canal, c'est que là, je n'ai pas le droit de les tromper. Parce que les salariés de Canal, ils sont là pour des années. Et après une réunion comme ça, eux peuvent me dire « Vous nous avez trompés. Vous nous avez dit tel jour telle chose, vous ne l'avez pas faite. » En allant les voir, en acceptant de discuter avec eux de toutes les questions, y compris de celles-là, au moins je sais que vis-à-vis des salariés de Canal, je m'engage complètement, donc j'engage ma sincérité et ma crédibilité. D'accord. Donc c'est pour moi beaucoup plus fort qu'une interview, qu'elle soit dans la presse, à la radio ou à la télé, donc, sur ce type de questions.
Donc toute la presse, y compris les journaux les plus sérieux, s'est plantée.
Comme je vous l'ai dit, on a eu des discussions avec
Pierre Lescure. Oui, mais quand, quand toute la presse a parlé de démission ou de licenciement, toute la presse s'est plantée. Oui. Est-ce que vous avez eu le début d'une interrogation sur le point de savoir d'où pouvaient venir les fuites? Qui pouvait avoir informé les journalistes là-dessus?
Alors, en l'occurrence, je ne parle pas d'information. Je parle de rumeurs ou je parle de fuites. Quand vous regardez, ne serait-ce que ce qui se passe à l'intérieur de Canal+, on leur demande un changement de culture extraordinaire à l'intérieur de Canal+. Que vous ayez eu des gens qui soient opposés à ce changement profond à l'intérieur de Canal, que vous ayez eu un certain nombre de collaborateurs, de Pierre, des miens, qui ont entendu parler de ces discussions et qui se sont dit « mais où est-ce qu'ils vont aller ?» et qu'à partir de là, une rumeur parte, c'est un phénomène qu'on connaît parfaitement.
Dans ce document, donc, qui est effectivement, comme vous le précisez, essentiellement destiné aux salariés de Canal+, vous expliquez que donc, Pierre Lescure est un chef de tribu, que Canal est une vraie tribu, et donc vous faites beaucoup d'éloges à Canal+, mais enfin, il y a quand même des problèmes à Canal+, ne serait-ce que des problèmes d'audience, par exemple, sur Nulle part ailleurs. L'audience a beaucoup baissé, elle n'est pas très bonne. Ça vous inquiète pas en tant qu'actionnaire?
Moi, d'abord, je ne suis pas responsable des programmes.
Oui, mais
de
quand
Canal.
Même, vous êtes actionnaire.
Non, mais de l'audience, oui.
De l'audience, ça vous intéresse quand même.
Oui, mais soyons clairs, parce que votre question est ambiguë. Je ne sais pas ce qu'il faut pour faire un bon programme de télé. Je ne sais pas ce qu'il faut pour faire un bon film. Je ne sais pas ce qu'il faut pour faire une bonne musique. Mon rôle n'est pas là et je ne dois pas me tromper de rôle. Quand vous regardez Canal+, dans les émissions en clair, Canal+, a toujours été à la pointe de l'innovation. C'est à eux de trouver comment le rester. Il ne faut pas oublier que Canal+, c'est avant tout une télévision à péage qui offre un service à ses abonnés, que ce service y repose en particulier sur le cinéma et sur le sport, et que pour Canal et pour l'actionnaire de Canal, le plus important, c'est que les abonnés de Canal y trouvent suffisamment ce qu'ils y cherchent pour avoir envie de se réabonner à la fin de chaque année.
Pour être clair, la baisse de l'audience de la tranche en clair de Canal+, n'inquiète pas l'actionnaire que vous êtes.
Qu'est-ce que je fais quand je lis la chute de l'audience d'NPA? Je pose la question à Pierre Lescure pour savoir ce que lui en pense. C'est lui le patron. C'est lui qui, avec Alain De Greff, est en charge des programmes. C'est à lui de répondre à cette question. Mon rôle, c'est de lui poser la question. Lui, c'est de gérer Canal. Je crois qu'il faut éviter la confusion des genres et la confusion des rôles.
Alors, il y a des moments aussi où simplement dans votre expression publique, dans les mots que vous employez, on a pu se demander si le fait que vous preniez comme ça la parole en public n'avait pas nuit aux intérêts de Vivendi. Et je pense à un exemple très précis, je pense à vos rapports avec Hervé Bourges. Alors, le rapport que Hélène va nous rappeler.
Oui, alors, très rapidement, hein, parce que c'est assez... Donc, début juillet, vous avez donc proposé donc, un premier projet au CSA, donc le CSA qui est chargé donc, de garantir l'indépendance de Canal+, et donc vous aviez proposé des mesures pour garantir cette indépendance. Mais le CSA, en fait, n'a pas donné son feu vert et vous a demandé de revoir votre copie, ce que vous avez fait, et donc fin juillet, vous avez finalement obtenu un accord du CSA. Alors, de toute évidence, vous avez dû vous plié aux exigences du CSA, et c'est d'ailleurs la version qui a été donnée dans la presse et qui était celle du CSA. Mais dans votre livre, vous revenez sur cette affaire et vous affirmez
Quelquefois, il faut un peu de sémantique pour mettre tout le monde d'accord. Alors, cette petite phrase, elle a été reprise abondamment, notamment dans le magazine Télérama. Et c'est vrai qu'elle est relativement importante parce qu'en fait, elle veut dire que bien finalement, tout ça, c'était de la sémantique et que vous avez un petit peu roulé le CSA dans la farine. Alors, évidemment, Hervé Bourges...
Il n'était pas très content.
Il
a même été un peu froissé. Quand vous l'avez écrite, cette phrase, vous n'êtes pas dit, ça risque de compliquer un peu mes rapports avec le CSA, non ? Pour le plaisir d'une formule, je vais m'empoisonner la vie.
Non seulement elle a été écrite, cette phrase, mais je l'ai relue. Avant que le livre soit publié, j'aurais pu aussi jeter un voile pudique, ne rien dire sur ce qui s'était passé durant cette période-là. Si j'ai trouvé nécessaire de le faire, c'est pour dire deux choses. Vous aviez sur votre écran une autre phrase qui était soulignée. Mieux vaut la régulation que la législation. Le CSA, de ce point de vue-là, il a été tout au long de l'instruction de la fusion Vivendi Canal, parfaitement dans son rôle de régulateur indépendant. Il est l'autorité ultime en la matière, et c'était son rôle. Quand je dis qu'il faut un peu de sémantique pour mettre tout le monde d'accord, c'est que mettez-vous un tant soit peu dans le cadre de cette opération. Regardez-la avec un œil, avec une vision de l'autre côté de l'Atlantique. Vous mettez du côté américain pour comprendre les subtilités de la loi, de la réglementation, des prises de position politiques, corporatistes, franco-françaises, je vous assure que ça a parfois un peu l'air exotique. Et quand je parle de sémantique, ouais, c'est pas seulement vis-à-vis du CSA. C'est que pour aller expliquer ce qui se passe au CSA ou avec le cinéma français à des Américains, il faut faire preuve de beaucoup de sémantique. Oui, même si c'est
pour les Américains, alors, la sémantique, c'est ça.
La phrase, elle était
je
pour les Américains.
Elle s'applique bien aux deux.
Oui, parce qu'elle a quand même été lue par un lecteur français d'abord. Hein. Elle sera lue par les Américains quand votre livre sera traduit et quand il sera porté à l'écran. Mais...
oui, puisqu'on a même entendu dire, alors là, vous allez peut-être démentir également, mais qu'il y avait eu des négociations justement pour céder les droits de votre livre pour en faire un film. Non ?
Je ne vais pas démentir, je vous ai promis d'être totalement transparent. Il y a une société de production qui a, comme on fait souvent sur les livres, bloqué les droits de production pour les deux années qui viennent.
Donc il va y avoir un film.
Si je vous donne mon sentiment, je ne vois pas comment il serait fait, mais ce n'est pas mon boulot ça.
Vous jouerez votre rôle ?
Certainement pas.
Très bien. Alors justement, à propos de ces problèmes de ciblage de communication, c'est-à-dire vous êtes dans la situation où vous êtes obligé de parler à plein de publics très différents, mais notamment à des Français et à des Américains. Et alors, on s'est rendu compte que ça posait parfois des petits problèmes d'adéquation.
Oui, alors voilà, donc depuis la fusion, donc l'annonce de la fusion avec donc Universal, on vous a beaucoup interrogé dans les magazines donc sur votre nouvelle vie de patron américain, franco-américain, et là aussi on a relevé quelques contradictions. Alors, en France, donc là c'est sur un forum de discussion avec les internautes, vous vendez la fusion avec Universal comme une victoire du petit Astérix qui devient plus grand que Mickey. Mais aux États-Unis, en fait, vous donnez une version un petit peu différente, hein, puisque là, ce n'est plus le petit Français qui part à l'assaut du gros Américain. Au contraire, vous expliquez, là, c'est dans le magazine Variety, en fait, Universal ne deviendra pas une filiale d'un groupe français, mais que l'ensemble sera une vraie global company, ça c'est pour reprendre vos termes. Et pour bien enfoncer le clou, vous insistez sur le fait que la créativité et le talent sont à Hollywood et que c'est pour ça que vous avez choisi d'y aller. Alors ces propos, vous ne les avez jamais tenus en France. Bon, on comprend un petit peu pourquoi. Et puis il y a une autre contradiction qu'on a relevée. Alors là, c'est sur votre emploi du temps de nouveau patron franco-américain. Alors au magazine Elle, qui vous interroge, vous dites « C'est vrai, je vais désormais une semaine sur trois à New York, et alors ?» Bon, alors, bref, on est rassurés, hein, vous restez un patron bien français. Mais aux États-Unis, alors là, vous avez une version un peu différente, puisque vous dites que vous vous sentez comme un Américain, et vous ajoutez que vous passerez la moitié de votre temps aux États-Unis, comme d'ailleurs Pierre Lescure. Alors, qui croire ?
Avant de répondre, faites attention, hein, on parle à des téléspectateurs français, mais l'émission est en ligne. donc les Américains peuvent la voir.
Il n'y a pas de problème, parce que de toute manière, tout article français est immédiatement lu, traduit, etc., et disponible en ligne, qu'il soit du côté français ou du côté américain.
Alors sur ce point hautement important, la moitié de votre temps ou
les trois quarts ?
Je passerai une semaine sur trois à New York l'année prochaine. Vivendi Universal est un groupe français, est un groupe de droit français, dont le siège est à Paris et dont les racines sont incontestablement françaises. Derrière, on a une activité dans plus de 100 pays dans le monde. Donc on va forger la culture de Vivendi Universal comme une culture d'un groupe qui soit réellement multiculturel. Quand vous dites on va à Hollywood parce que c'est la créativité, quand vous sortez cet extrait, la phrase est légèrement sortie de son contexte. Ça a été destiné à expliquer les raisons pour lesquelles, bien que devenant l'actionnaire de contrôle d'Universal Studios, les équipes d'Universal Studios à Hollywood resteraient américaines. Et pourquoi nous avions confiance avec Pierre Lescure dans le tandem que forment Ron Meyer et Stacy Snyder.
Très bien. Alors, un mot pour terminer, parce que l'heure tourne malheureusement, un mot sur Internet, hein, on en parlait à l'instant. Alors, vous, Vivendi a financé la création d'un site Internet original, il s'appelle powo.net, et dont l'objectif est d'être un journal de dialogue sur l'éthique du net, c'est-à-dire de poser le problème d'éthique qui se pose à propos d'Internet. Mais vous dites bien dans votre livre, Vivendi n'intervient pas dans le contenu, nous, on a simplement financé et on entretient ce lieu de débat, mais qui n'est pas censé servir les intérêts de Vivendi. Alors simplement, nous, on est allé un peu fouiner dans ce site et on y a découvert un dossier sur le MP3. Le MP3, c'est ce format de téléchargement de musique qui permet à des jeunes internautes, le plus souvent gratuitement d'ailleurs et en piratant, d'écouter de la musique. Et alors, dans ce dossier, vous consacrez une partie au risque que présente pour les jeunes internautes le fait de télécharger du MP3. Et alors, en langage messier, vous leur dites « Oh là là, faites gaffe !» Enfin, pardon, powo.net leur dit « Oh là là, faites gaffe, il y a un gendarme qui est là. » Et alors, on dit à ces internautes tout ce qu'ils risquent en téléchargeant des musiques. Alors, ils risquent des peines d'amende qui peuvent aller jusqu'à 1 million de francs, voilà. Ils risquent même des peines de prison jusqu'à 2 ans. Enfin bref, on les avertit. Alors là, je me suis demandé si en douce, quand même, sous couvert d'entretenir un lieu tout à fait louable sur l'éthique du net, vous ne défendiez pas un peu les intérêts qui sont ceux d'Universal. Parce que, Universal est le numéro un mondial de la musique, mais pour devenir le maître du monde de la musique, il va bien falloir que vous domestiquiez un peu cet Internet et ses pirates et que vous alliez empêcher les jeunes de télécharger ce qu'ils veulent gratuitement, quoi.
On ne va pas empêcher les jeunes de télécharger ce qu'ils veulent gratuitement. C'est le métier de la musique en ligne lui-même qui est en train d'évoluer. MP3 a vraisemblablement, d'ailleurs, depuis ce que vous indiquez, fait un accord avec Universal Music.
Oui, mais il y en aura d'autres.
Napster a fait un accord
Bien sûr, mais il y en aura d'autres qui vont surgir.
Avec BMG. C'est... Oui, mais qu'est-ce qui va se passer sur la musique en ligne? C'est qu'avec le développement du haut débit, on va de moins en moins télécharger. Vous allez directement écouter à l'intérieur de catalogues. Et que ça se prêtera à des offres qui seront pour partie gratuites, comme vous regardez des chaînes hertziennes de manière gratuite, et pour partie des offres avec un service plus sur abonnement, comme vous vous abonnez à Canal+, parce que vous y trouvez quelque chose de supplémentaire. Et il n'y a pas de contradiction entre une partie d'offres qui est une offre libre, et une partie d'offres avec un service supplémentaire qui est une offre, payante. En ce qui concerne Powo, d'une part, l'équipe qui anime Powo est totalement extérieure à Vivendi. Je n'ai jamais de contact avec eux. Et vous auriez pu sortir à l'image certains éléments de chat sur lesquels, par exemple, l'une des initiatives que nous avons prises, qui est une charte Internet confiance, en disant à nos clients... Voilà quels sont les engagements qu'on prend en matière de protection des données, en matière de protection de vos enfants, en matière de filtres, etc. Notre charte Internet confiance, elle se fait critiquer, si je vais faire cool, je dirais désinguer, elle se fait critiquer aussi à longueur de page et à longueur de chat sur Powo. Alors, je crois que c'est toujours la même chose. On ne prend pas de risque de se faire critiquer si on reste tranquillement chez soi et qu'on ne bouge pas. Bouger, c'est accepter, c'est prendre le risque de se faire critiquer. Je trouve utile qu'il y ait un site où il y ait un débat ouvert sur l'éthique d'Internet et la relation de confiance à bâtir avec le consommateur.
Très bien, merci à vous. Il y a un autre site où un débat est ouvert, c'est le forum d'arrêt sur image. Et nul doute que dès l'arrêt de cette émission, je ne sais pas qui va se faire désinguer sur le forum d'arrêt sur image, mais je pense que ça va pleuvoir. Rediffusion jeudi 10h. Prochain arrêt sur image, dimanche prochain à 12h30. Au revoir à tous.